Cascodeur Podcast, épisode 295. La librairie rentre dans le cadre. Enregistré le 12 mai 2023.
Si vous le pouvez et souhaitez, n'hésitez pas à soutenir les Cascodeurs sur patreon.com/lescascodeurs. Merci à vous. Bon, clouf clouf. Bonjour et bienvenue aux Cascodeurs. Nous sommes dans l'épisode de 295. Nous sommes le 12 mai 2023. Nous sommes au 7e démarrage. Non.
Bah oui, parce que je croyais que c'était l'épisode 300, où on n'en est pas encore au 300e.
Bientôt, bientôt.
Il faudra faire un gâteau avec 300 bougies, ça serait superbe.
Ouais. Tu sais, on a des problèmes avec les gâteaux, donc on va pas.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, c'était une private joke. Oui, c'est vrai. Ouais. On va la garder pour nous, celle-là.
Bon, on n'a pas eu news depuis 2 mois, donc je crois que en fait, moi j'ai vu pas mal de news en avril, un peu moins en mai, parce que bon, de toute façon, mai n'est pas fini. Donc, ouais. Vous allez voir, ça va se refléter un petit peu. Voilà, sinon...
Pas de news depuis 2 mois, attends, les cascodeurs à Devox, c'était de la news en barre.
Ouais, mais c'était de la news micro-locale, quoi, tu vois, comme les
Au fait, la vidéo est en ligne. Je vais vous tweeter ça. Chères auditrices et chers auditeurs.
Ouais, faudrait mettre à jour aussi le lien. Hein, parce que j'ai mis la vidéo, un pointeur, mais avec un lien qui est cassé. Bref, on va se lancer, hein, puisque Antonio doit nous quitter dans 50 minutes. Apparemment, il a un métier.
49 minutes.
Alors, on va commencer sur les langages avec un petit article. On en avait déjà parlé, mais Kjells Horstmann, ouais. Qui est un Java champion et qui est dans l'académie, l'université, chose comme ça, je crois. Alors, je dis peut-être une bêtise là-dessus, mais en tout cas, refait un petit résumé, son point de vue sur le changement de licence d'Oracle JDK. Donc, on va pas aller dans le détail, mais ce qu'il dit, c'est bon, si vous avez le moindre doute, utilisez d'autres distributions, notamment Adoptium ou des dérivés d'Adoptium. Comme beaucoup maintenant sont basés là-dessus. Et puis, tout va bien. D'ailleurs, j'ai pas compris. Il y a Adoptium, qui est le nom de là où on peut aller, et Eclipse Temurin, qui est la distribution que Adoptium propose. Donc, pas hyper clair. Voilà, bon, en tout cas, plus intéressant, Java 20 est sorti. Bon, il y a 6 mois maintenant, parce que je sais plus.
C'était quand? C'était en mars.
Quoi de neuf? C'était un peu avant. Pas grand chose. Hein. D'abord, c'est pas une LTS, je crois.
Non.
La LTS, ça sera la 21.
Ouais, voilà. Et du coup, on a un article de Fujay.io qui nous explique un petit peu ce qu'il y a de nouveau, justement. Alors, il y a pas mal de choses qui sont passées de prévues, des nouvelles previews, des incubations, rien qui arrive en finale de ce que j'ai vu. Donc, le pattern matching pour les switches, on passe en 4e preview. La seconde pour les record patterns. Et on va voir que tout ça, en fait, je sais pas si on le verra, mais tout ça est un peu lié. C'est-à-dire qu'ils ont évolué quelque chose et ils ont amélioré une autre partie en parallèle. Une seconde preview des virtual threads à partir des premiers retours qu'ils ont eu quand ils ont lancé ça, et certaines parties qui descendent dans l'API thread finale. Donc là, c'est déjà dans le 20 en tant que finale et non pas en tant que preview.
Donc ça, c'est le projet Loom.
Oui. Alors les virtual threads sont pas exposés, mais comme l'API thread évolue un petit peu, c'est disponible. Les scope values, je sais pas si vous avez vu, j'en ferai un petit résumé sinon. C'est en version incubation, c'est un peu comme les threads locales, mais pour les virtual threads, on va voir pourquoi. Structure de concurrency qui est essayer d'amener un peu de la simplicité sur la simplicité de programmation impérative, mais dans des approches potentiellement parallèles. Seconde preview aussi des foreign functions et des memory API. Voilà. Et la Vector API qui est dans sa 5e incubation. J'avoue que là, je n'ai pas été zoomé pour voir la différence. Donc, il y a des liens vers les release notes, etc., etc. Des petites choses que moi, j'ai vues dans le, qui m'ont marqué, moi. Hein, c'est pas forcément ce qui est tout récent dans la, la proposition, mais dans le pattern matching, il y a un garde, on peut dire, on peut faire un switch, et en rajoutant une clause de restriction, en fait, une clause de garde. On peut dire, par exemple, déjà, on peut switcher sur les types. Donc, on peut dire switch sur le type, masse ou classe. When telle valeur est au-dessus de 12, et sinon on met switcher sur la sous-classe et ça va être les valeurs restantes. Donc on peut vraiment raffiner au niveau des switches. Là, ça va commencer à être vraiment super intéressant.
Tu mets les conditions.
C'est beaucoup plus ça. Avec voilà, au lieu d'utiliser des if-else, voilà. Maintenant on peut avoir les switches qui nous amènent de la sécurité et qui augmentent en flexibilité. Là.
Et donc avec le nouveau mot-clé when.
Voilà.
Donc on fait case, donc il donne un exemple hein, sur des effets de guitare, case tremolo, case reverb, et puis il y a le case tuner, voilà, case numéro 1, et case tuner when guitar is in tune. Donc vous avez le nouveau mot-clé when, j'ai trouvé ça assez élégant.
Ouais, c'est quoi un tuner du coup?
Un tuner c'est pour tuner... C'est, tu,
alors c'est tu as, guitar is tu, not in tuner.
Tu as une voiture, tu la tunes. Bon bah là c'est comme une voilà, c'est comme une voiture.
Tu veux dire une Jackie Mobile?
Non, c'est pour l'accorder.
L'accorder. Mais du coup c'est quand elle est pas en accordée, on est à la case le cas où
voilà, tune. Case okay. Case tuner when guitar est pas accordée, alors t'accordes okay, sinon
j'avais mal, t'accordes mal entendu. Ensuite, dans les record patterns, on peut utiliser les vars. Donc, il y a de l'inférence, l'utilisation des vars, ce qui est un peu mieux parce que c'était un petit peu lourd, moi, je trouvais, au niveau des record patterns de devoir définir les variables à gauche et à droite, du coup, à chaque fois. Enfin, pas les variables, pardon, mais les types. Et c'est aussi utilisable dans les forts. Donc, on peut dire, on peut mettre les record patterns dans les for. Donc, on peut dire for delay var time in millisecondes de tous les delays. Et donc, on fait de la... Donc, le record pattern, ça nous permet de faire de la... Comment ils appellent ça l'aplatir, la déstructuration des records et d'avoir directement les variables du record en tant que variable top level, en tout cas dans la boucle. Donc, voilà, un petit ajout intéressant.
Parce que là, dans ta boucle, les delays, eux, ils sont en millisecondes. Donc, tu as une liste de delays en millisecondes. C'est pas une liste de delays, c'est une liste de millisecondes. Et derrière,
c'est une liste de millisecondes des delays, en fait. Voilà.
Des delays.
Time in MS, c'est la variable qui est accessible au sein de la boucle for, sans avoir à utiliser l'objet delay, point, time in millisecondes. Ensuite, donc, comme j'ai dit, quelques changements autour de l'API thread et du coup en non-preview, parce que ça, c'est dans l'API standard. Les scope value. Alors, les scope value, c'est un peu comme les threads locales, mais les threads locales, c'est assez cher en termes de préparation de stockage de la variable, etc. Et puis, il y a le risque, comme c'est pas, il n'y a pas de cycle de vie super défini, tant que le class pass n'est pas viré, en fait, et si on n'a pas vidé cette variable, ben, elle reste potentiellement à l'infini avec des potentiels memory leaks. Et donc, comme les virtual threads, au lieu de passer à, mettons, 1000 threads, ils vont passer à 10 000, 100 000 virtual threads, ça serait exacerbé. Donc là, ce qu'ils disent, c'est qu'on introduit des variables dites scope value, qui sont un peu comme des threads locales, qu'on peut utiliser dans les threads ou dans les virtual threads, sauf qu'elles sont immuables. Donc, on les définit une fois, et après, elles ne sont accessibles qu'en lecture, au sein du scope et en l'occurrence au sein du virtual thread. Donc il y a une API qui dit quelque chose, alors je ne me rappelle plus le détail, mais il y a en gros on initialise la variable et ensuite on dit exécute ce truc là dans un virtual thread avec ça, et exécute ce truc là c'est le fameux scope. Et donc la variable elle est désinitialisée, enfin virée du pool à la fin de l'exécution, donc c'est un peu plus propre. C'est immuable aussi, donc ça a des petits avantages. C'est-à-dire qu'on le définit une fois par thread ou par virtual thread et ensuite on avance. J'étais clair? Bon, sinon, lisez l'article, c'est un peu plus clair. Ou plutôt,
c'était pas super clair
dans l'article. Voilà, allez lire la JUP 429, c'est là où j'ai trouvé les choses un peu les plus claires. Et le cas d'utilisation, c'est voilà, le copie d'état pour des données qui ne changent pas une fois que le, enfin, au sein du virtual thread. Voilà, moi je pense qu'un petit crowdcast de José serait pas mal. Je dis ça, je dis rien. Voilà, sinon pour noter, PDF 2.0 est maintenant un vrai format ISO ouvert et gratuit. Avant, il était accessible, mais il fallait payer pour avoir le détail et notamment pour être un implémenteur. Voilà, donc ça, c'est fini. Et puis, ils ont... donc, c'est sans coût maintenant. Et puis, ils ont amélioré des cas à la marge, des choses qui n'étaient pas super standard au niveau PDF. Et maintenant, c'est standardisé et disponible librement. Libre sans droit. Donc ça, c'est merci à Adobe et je ne sais plus qui d'autre qui ont lâché leurs droits. Librairie. Alors, qui s'est écrit un profileur ?
J'ai jamais fait. J'avoue que j'ai lu l'article. Je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. Mais j'avoue que je n'avais jamais essayé
de faire.
C'est
pas si compliqué que ça, en fait.
Ouais, c'est pas si compliqué, ouais.
C'est ça.
Alors, l'article dit, on peut écrire un profileur en 240 lignes de Java. Alors, je n'ai pas compté ces lignes, mais les étapes sont assez simples. Donc, il utilise un Java agent pour faire ça. Et le Java agent, en gros, il est dans un thread daemon et il s'appelle tous les X millisecondes et après il s'endort et puis il se rappelle tous les X millisecondes. Et donc, ça un petit. Ah oui, et après il appelle thread.getAllStackTrace. Et du coup, il a toutes les stack traces de ce qui se passe dans la JVM. Alors, ça a un petit effet, ça, c'est que ça doit s'aligner sur les barrières de safety de la JVM. Donc ça force un peu une barrière, ou alors ça ne le fait qu'au moment des barrières. Donc il y a un petit biais, mais sinon, à partir de toutes ces stack traces, il sait toutes les méthodes qui sont appelées au moment où il fait son snapshot. Et puis, il peut construire et savoir, tiens, telle méthode à utiliser tant de fois. Donc, c'est pas un profiler de mémoire, mais c'est un profiler de méthode. Du coup, on va approximer ça un peu à un profiler de CPU. Et notamment, il peut faire les fameux flame graphs qui disent, telle méthode à utiliser 30% du temps, l'autre 5%. Et on voit les étages au-dessus, c'est les sous-méthodes appelées au sein d'une méthode. Donc, ça, c'est assez intéressant pour voir les méthodes qui sont dominantes en termes de temps. Et donc, c'est assez intéressant de se dire, en fait, c'est pas si dur que ça d'écrire en tout cas cette partie-là d'un profile. Mmh. Voilà. Sinon, alors c'est notre... on l'a mis dans des langages, mais Flutter, qui est un outil web, annonce ses roadmaps en 2023. Donc, plus de perf, plus d'interopérabilité, de la portabilité, un travail sur l'écosystème et pas juste, imagine, centré sur les gens de Google, des sécurités, des choses un peu fondamentales pour la communauté comme la documentation, l'alignement avec les interfaces utilisateurs natives, c'est-à-dire si vous utilisez Flutter pour iOS, ça ressemble à de l'iOS, et puis adresser tous les issues qui ont été créés et qui ont été visiblement pas forcément suivis par l'équipe pour avancer. Voilà, donc si vous êtes un utilisateur de Flutter, je vous encourage à aller sur flutter.dev et d'aller regarder leur roadmap. Voilà. Sinon, Quarkus 3 est sorti.
Encore. Il est sorti une deuxième fois.
Donc on va arrêter. Ouais, c'est ça. On en a déjà parlé dans les épisodes d'avant. Donc, super vite. ORM 6.2, la nouvelle Dev UI avec les outils d'admin maintenant sur un port différent, ce qui permet de sécuriser un peu les choses, notamment quand on est sur Kubernetes, quand on ouvre le port d'accès. Le support de PACT, donc les contract testing, donc ça c'est pas mal.
Il y a quelques conférences aussi, Holly Cummins et Eric, on fait quelques confs sur PACT. Si ça vous intéresse, jetez un œil, c'est tout pas mal, ouais.
Devox UK et Devox Athènes, donc je ne sais pas si Athènes était enregistré, j'imagine que peut-être probablement oui. Voilà, Quarkus Deploy qui permet de simplifier le déploiement sans passer par Maven ou Gradle, etc. Et un truc intéressant, Quarkus Deploy, ça utilise Quarkus, la ligne de commande, la CLI, l'outil de ligne de commande. Et ça, ça a des nouveaux verbes, notamment update, qui vous aident à la migration d'une version de Quarkus à une autre. Et surtout, c'est extensible, donc il va y avoir un catalogue des verbes et des qui sont extensibles et installables. Voilà. des dev services pour Kubernetes, qui simulent Kubernetes, en fait.
Ça, c'est vraiment pas mal.
Et ouais, quand on teste notamment les appels à Kubernetes, l'API, qu'on veut tester ces fameux Kubernetes clients, eh ben, ça, c'est cool.
C'est vrai qu'il y a eu, enfin, pour celles et ceux qui n'utilisent pas Quarkus, ça fait quelques années qu'ils ils ont développé un truc qui s'appelle Dev Service. Et franchement, ça change la vie du développeur. En fait, ça utilise beaucoup de tests containers. Et ça va initialiser des bases de données pour vous, ça va initialiser des Kafka, des trucs et des machins.
Ouais, démarrer, ouais.
Ouais, démarrer et initialiser, et arrêter, configurer, ouais. Arrêter. Enfin, c'est vraiment super. Et c'est vrai que là, j'ai fait Mumuse avec. Ils ont un dev service pour Cube, et c'est assez pratique. Vraiment, je vous recommande de jeter un œil à ces dev services.
Et on travaille sur un verbe, là, Quarkus AI. Fais-moi mon appli, et puis paf, ça fait l'appli.
KTAGPT.
Ouais, KTAGPT. Pour ceux qui ont écouté l'épisode d'Evox. Donc Java 11, mais Java 17 recommandé, 11 de base. Jakarta AI, donc la migration vers Jakarta AI, les nouveaux packages. Voilà. Et Eclipse Microprofile 6 qui fait évoluer certaines de ses API. Voilà.
Tiens, bah, petite question, Emmanuel, que tu sais peut-être, qui n'est pas là dans les show notes. Est-ce que Quarkus 3 va passer un des TCK ou zéro, genre micro profil 6, genre Jakarta E, je pense pas, mais Jakarta E Lite ou Jakarta E Web Profil, ou plus du tout, ou jouer plus du tout le jeu des specs et des TCK.
Bah, les specs micro profil, oui. Et les specs Jakarta,
Light.
C'est pas clair. Le CDI Lite, je pense que, je sais pas si on pourrait l'exécuter, mais en tout cas, l'implémentation va le supporter, parce que c'est une des implémentations de référence de CDI Lite. Si tu veux vraiment un truc standardisé, c'est Wildfly qui ajoute aussi, CDI Lite, micro-profil, etc. Donc, c'est plutôt là si tu veux rester sur ces approches centrées.
Mais même un petit Jakarta E Core, où il n'y a pas grand chose en fait, Core.
Ouais, mais est-ce que ça attend un WAR en termes de déploiement? Tu vois, il y a contraintes un peu pénibles comme ça.
Ouais, d'accord.
Voilà. Donc, non, en tout cas, ce n'est pas dans la roadmap.
D'accord.
Notre ami Cédric Champeau, qui, à ses heures, à ses nuits perdues, plutôt fait de l'astronomie.
C'est ça.
Et puis, il y a des outils pour... parce qu'en fait, je crois qu'il a un télescope pilotable ou un truc comme ça. Ouais. Et du coup, il y a des API. Du coup, il a utilisé ça, mais c'est en Python. Et puis après, il y a des algorithmes pour nettoyer des images, pour enlever les... Je sais pas, moi, peut-être les...
Le bruit, enfin, c'est ouais. il a acheté un appareil qui se met au-dessus de son télescope pour justement pouvoir améliorer les photos du soleil particulièrement. Et mais effectivement, il était pas content par le toolkit qui est fourni avec le petit outil. Ouais. Et donc il a réécrit le toolkit en Java, même en natif avec Graal, puisque lui c'est un expert de Graal VM aussi. Et il a pu justement, il a dû réécrire à la fois
de filtrage et tout, ouais, c'est ça qui est bien.
En fait, voilà, il a refait vraiment toute la librairie depuis la gestion des formats de données en question qui sont spécifiques, donc la lecture, etc., le traitement des images, enfin voilà. Donc, il s'est amusé à faire ça, voilà, c'est intéressant.
Donc, il travaille sur un algo pour enlever les satellites d'Elon Musk, mais pour le soleil, il s'en fout un peu, mais je pense pour les autres, c'est un peu plus intéressant. Micronautes 4 Milestone 2 est sorti.
Mais il n'y a pas la GA qui est sortie cette semaine, là?
Ou je me suis trompé? En tout cas, ce que tu as retweeté, c'était la Milestone 2.
La flûte.
Oui, j'ai vu passer la Milestone 2, la finale.
Non, je me trompe peut-être, alors. Non, je me trompe peut-être. J'arrive pas sur leur site à rapidement.
On met une petite.
Okay, j'étais persuadé que le.
Musique d'ascenseur, mais non, je pense que c'est.
La GA. Non, bah vous avez raison, puisqu'il y a la 391 GA. Donc, non, bah autant pour moi. Désolé.
En tout cas, il parle. Du coup, je suis allé regarder, toi aussi, d'ailleurs, Arnaud, mais ils expliquent un peu les travaux sur lesquels ils ont poussé. Je sais pas si tu veux faire un petit tour, Arnaud, dessus.
Oui, enfin, sur les travaux qu'il y a eu, donc il y a Kotlin où ils ont mis à jour, ils sont passés en Kotlin 1.8. Alors le support, là je connais pas trop effectivement le support du KSP, le Kotlin Symbol Processing. Je sais pas, tu connais non, Manuel, je connais pas beaucoup, moi, cette partie-là. Ils ont upgradé aussi Groovy, enfin le support de Groovy 4 qui sont passés. Sur tout ce qui va être cœur, il y a eu pas mal de changements. Bon, ben Java 17 en baseline, amélioration de la modularité, la fameuse modularité Java, GraalVM, Metadata Repository et Runtime Initialisation, migration, ben, comme Quarkus, ils ont suivi le même trade, passer à Jakarta pour les packages. Oui. Un nouvel expression language, je l'ai pas bien précisé, mais c'est un nouvel expression language, si j'ai bien compris, qu'ils ont rajouté.
On a Qt par exemple, qui est un template, pas vraiment un expression language, mais dans lequel il y a de l'expression language. Donc.
Voilà, c'est ça. Et là, ils en ont refait. L'injection des maps, j'ai pas trop compris. Ils ont rajouté un truc pour l'injection des maps.
En tout cas, à propos d'injection, j'ai discuté avec Graham, puisque maintenant c'est mon grand pote, et il bossait sur CDI Light. Donc, ouais. Micronautes, je ne sais pas si ça va être dans le 4 ou pas, mais implémenterait CDI Lite. Voilà.
Okay. Et sinon, après, pas mal de choses autour de l'amélioration des messages d'erreur, sur les bins qui sont manquants, les configurations qui sont manquantes, la possibilité de faire du nesting sur les config properties, enfin, de manière arbitraire. Et puis, côté HTTP, ils ont commencé donc, à mettre le support de Loom, donc des virtual threads. Le HTTP layer, ils l'ont réécrit. Ils ont rajouté les annotations pour les filters HTTP et ils supportent celui qui est dans le base dans le JDK, le nouveau HTTP le client qui avait été rajouté. Le client qui a été rajouté, je sais plus quand.
Ouais, c'est une bonne question.
Je vais dire des bêtises.
Ça fait un bail déjà parce que je me souviens qu'il y a une décennie, il y avait déjà une mini guerre interne entre Jacques Serret, ceux qui disaient on a une librairie cliente, pourquoi vous en voulez une autre. Donc je sais qu'on en a parlé depuis longtemps et je crois que c'est pas tout jeune comme.
Donc moi j'ai deux remarques. Alors la première, c'est le Kotlin Symbol Processing. En fait, ça permet, c'est des plugins pour le compilateur Kotlin lui-même, mais qui sont plus légers que les annotation processors, que les APT.
D'accord.
Et ils expliquent que des fois ça va jusqu'à deux fois plus vite en termes d'exécution. Je pense qu'ils ont réussi à éliminer des phases récursives ou des choses comme ça. Enfin, ça c'est purement mon hypothèse, mais voilà, du coup ça correspond à ça. Et l'autre, c'est, ça y est, on a donc Spring, ils sont Jakarta IE avec le nouveau package, Quarkus Jakarta IE avec le nouveau package, Micronautes aussi. Donc maintenant on est vraiment dans l'ère où tout le monde est dans les nouveaux packages et on a quand même malgré tout, il y a un utilisateur qui était un peu coincé, il y a encore des librairies qui utilisent les anciens, donc on a toujours ce problème de, d'accord, y a-t-il assez de librairies qui supportent les deux ou qui sont passées à la nouvelle API
Moi j'ai ouvert un bug, enfin une issue sur Rest Assured que vous utilisez vachement plus sur Quarkus et elle est toujours pas fermée, c'est-à-dire que Rest Assured, vous pouvez overrider votre object mapper et si vous mettez JSON B, il cherche un javax.json et il le trouve pas, pète. Et donc Rest Assured est toujours pas, enfin aux dernières nouvelles, est toujours pas Jakarta IE compliant.
Après, tu peux essayer de ramener l'ancienne interface et voir si ça fonctionne, mais tu commences à jouer un peu avec le feu.
Et là, Emmanuel, tu parlais de Micronautes, Quarkus, mais quid là de Wildfly, JBoss, parce que je sais que WebLogic 14C, si je dis pas de bêtises, est passé à Jakarta E, WebSphere, je sais pas trop. JBoss, Wildfly.
WebSphere, je crois pas, justement. Liberty peut-être, mais WebSphere, de mémoire, ils n'ont pas migré. Et Wildfly, si, il a migré, parce qu'en fait, Quarkus, ça utilise beaucoup des mêmes choses que Wildfly, et vice-versa. En fait, c'était un choix d'alignement aussi, en fait, un travail d'alignement. Pour être honnête, ils étaient même plus en avance que Quarkus sur ce travail-là. Alors, on va passer à l'infrastructure. Podman, le phoque qui combat les... qui combat pas, mais qui fait... qui est une alternative au Docker. Il y a un article sur Podman Desktop pour un utilisateur de Docker. Et donc, ça a dit, ça peut être une interface Podman Desktop, ça supporte et Podman et Desktop, et Docker et Docker. Alors que Docker Desktop ne supporte que Docker. C'est compatible avec Docker. C'est-à-dire qu'on peut...
En théorie, c'est transparent.
Oui, tu peux. Non, c'est pas ça, mais c'est que en fait, Podman est un mode sans démon, alors que Docker, il y a un démon qui tourne. Et il y a certains outils, notamment Test Container, qui s'appuient sur le fait que c'est un démon. Ça utilise peut-être le Docker Sock.
C'est pour ça que j'ai dû désinstaller Podman, parce que il se perdait totalement. Et c'est vrai que j'avais Test Container, Docker et Podman, et ça marchait plus du tout. Et je savais pas pourquoi. Et à la fin, j'avais vu que c'était cette embrouille, et j'ai dû virer Podman. Test Container.
Donc ça, tu peux. Maintenant, il y a un support. Déjà, les gens de Test Container et de Podman ont travaillé ensemble avec. Donc, ils avaient aidé pour. Avec Quarkus, ils ont aidé pour résoudre ce problème-là. Alors, ça supporte Compose, mais en fait, c'est ça supporte si tu as Docker Compose littéralement, donc ça peut appeler Docker Compose et Docker Compose peut déléguer à Podman en dessous parce qu'il appelle Docker et si t'as, c'est pas un alias, mais si t'as un remplacement de commande, ça fonctionne. Voilà. Un truc intéressant, c'est Podman peut émuler et exécuter des définitions de pod, en fait. Donc, sans avoir à démarrer un Kubernetes entier, on peut dire, fais tourner, en fait, ce que tu comprends de ce pod-là. Donc, on envoie une définition YAML et ça peut le déployer, et l'exécuter, enfin, avec les limites que ça a. Mais ça peut être intéressant pour tester de manière un peu unitaire sans avoir à déployer un cube en entier. Voilà. Donc ça, c'était les gros points intéressants de cet article. Si vous voulez être intéressé par Podman et Podman Desktop, vous pouvez aller zoomer là-dessus. Keycloak rejoint la CNCF. Donc Keycloak, c'est un outil de Identity and Access Management qui est assez populaire, qui est écrit en Java et qui a basculé là dans les dernières versions sur un support à base de Quarkus plutôt qu'à base d'un serveur d'application. Et du coup, beaucoup plus léger, voire je sais plus s'ils ont la compilation native ou s'ils sont en chemin, mais voilà. Donc ça a plein d'avantages et du coup un peu plus friendly au niveau cloud native. Il y avait des alternatives à la qui s'appelle Dex ou des genres de choses pour quand on était dans l'univers pur Kubernetes, mais qui était beaucoup moins avancé fonctionnellement. Donc là, c'est une bonne nouvelle, cette poussée-là.
En fait, je suis le seul à dire SNCF ou...
Non, je le pense toujours. En tout cas. Je le pense toujours très fort et je travaille...
SNCF, punaise.
Ouais. Après, il y a ça. Et puis le DevSysOps qu'on a vu il y a quelques épisodes aussi. Voilà, on va parler de cloud avec un petit article de Baldung, donc le portail maintenant, parce que je pense que c'est plus une seule personne. On sait d'ailleurs que ce n'est plus une seule personne. Sur les différentes distributions Kubernetes légères.
Oui, alors légères, effectivement, c'est pour lancer en local, surtout dans le mode développeur, pour pouvoir avoir soit faire vraiment des déploiements Kubernetes très légers en local, soit faire des tests. Ils en ont commenté 4. Le premier, c'est Minikube. C'est un peu le papy de ces environnements-là, mais qui lui fonctionne avec.
C'est papy Mojo.
C'est ça, c'est un peu le papy. Moi, je l'avais déjà utilisé pas mal à l'époque, mais bon, il tourne avec un seul nœud, donc vous n'allez pas très loin sur ce que vous allez pouvoir déployer dessus.
C'est le plus compatible, moi, je trouve, quand même.
Par contre,
quand on veut faire le plus...
Très compatible. Par contre, il faut bien faire justement attention à la compatibilité entre la version de Minikube et la version de Kube qui est dedans, etc., mais ça marche bien. Micro K8S, lui, j'avais dû le tester rapidement, mais j'ai pas grand souvenir. Lui, il est à jour, mais il supporte pas par contre les CPU ARM32 a priori. Donc, je sais pas à quel point ce genre de choses est bloquante de nos jours.
Ouais, il sait faire les multinodes.
Il sait faire les multinodes, par contre, c'est ça. Il sait faire les multinodes. Bon, il faut déjà avoir des machines qui commencent à être un peu puissantes hein, pour avoir du multinode Docker, Kubernetes en local. Kind, c'est le... Je dirais que c'est le plus moderne, c'est quand même celui qui est le plus, qui est quand même pas mal utilisé aujourd'hui avec le suivant qui sera K3S. Donc lui, il fait le multinœud aussi. Par contre.
Surtout, ça veut dire Kubernetes in Docker. Donc ça utilise Docker pour faire tourner.
Ça utilise Docker. Tu peux, donc on l'utilise, nous, on l'utilisait pas mal justement chez mon employeur précédent pour faire justement du Docker dans Docker, gérer les tests de CI, etc. pour pouvoir faire les tests de CI et toutes ces choses. Donc, par contre, plus difficile à configurer, voilà, avec autre chose que Docker. Et K3S, c'est celui qui est le plus léger. Moi, consommation de ressources, c'est celui qui, effectivement, est le plus portable. Mais il y en a d'autres. Hein. Après, il y en a d'autres. Ils en ont cité ces quatre-là, mais il y en a pas mal, quand même, des outils du style.
Et K3D qui fait tourner K3S dans Docker. Du coup,
oui, exact.
Bon. Et après, on peut faire tourner Docker dans Kubernetes avec kubedoc, et puis hop, c'est bon, on peut boucler. Les poupées russes. Ouais, non, mais les poupées russes qui se mangent la queue, tu vois, donc c'est plus subtil que ça. C'est ça,
Kubernetes dans Docker, mais voilà. Avec Docker dans Kubernetes. Mon Dieu.
Alors, cet article, moi, je trouvais que c'était quand même un peu léger sur le détail, quand même, dans pourquoi utiliser quoi, mais au moins ça vous donne la liste des, voilà, ça donne 6 noms à aller explorer, ouais. Peut-être un premier filtre de premier niveau pour vous. Ouais. Ensuite, Google a fait la PR a travaillé, la press release a travaillé, et donc maintenant ils vont se reposer le reste de l'année.
Enfin, l'IA de la press release, on imagine hein, aujourd'hui, oui. Qu'ils n'ont pas fait, ils ont pas fait grand chose, donc c'était hier ou avant-hier, je sais plus, Google I.O., enfin, c'était cette semaine. Guillaume reviendra dessus rapidement, donc on va passer vite. Il fera un enregistrement plus détaillé.
Il reviendra dessus moins rapidement que nous.
Voilà, lui il viendra moins rapidement que nous. Les grosses annonces, bon bien sûr il y a de l'IA partout.
IA
partout, donc de l'IA sur tous les services, de l'IA dans la search, de l'IA dans Google Workspace, Google Docs, Google Slides. Il y a partout. Du clavier nouveau aussi. Hardware.
Le clavier, parce que quand on écrit bonjour, ça va, vous pouvez le traduire en anglais, shakespearien en anglais, friendly en anglais, machin, en anglais bidule, quoi.
Ouais, c'est mes enfants qui vont être super contents pour pouvoir ne pas se fatiguer et écrire des trucs avec moins de fautes et voire même en anglais de manière lisible. Côté hardware, les pixels, les nouveaux pixels avec la version Fold là qui se plie. Moi,
les téléphones du coup.
Ouais, les
tablettes.
Ouais, et avec leur puce G2.
D'accord. Voilà, G2, c'est ça. Je cherchais le nom, G2. Et qu'est-ce que j'oublie d'autre?
D'ailleurs, ma femme a récemment changé son téléphone et elle est partie pour un 6A justement, qui est un téléphone. Pour ceux qui n'aiment pas les gros téléphones, il est. Milieu de gamme assez compétitif là-dessus, avec pas mal boosté en termes de specs. Donc là, je connais pas le prix du 7A, mais c'est un peu une approche sans avoir une tablette dans sa poche, comme c'est le cas un peu ces derniers temps.
C'est marrant quand tu dis ma femme, ça me rappelle Columbo, c'est ma femme. Dans Columbo, il parle toujours de sa femme. Là, voilà. On vient de dire notre âge, je pense. Colombo.
Là, on a perdu la moitié des auditeurs.
Colombo.
C'est qui Colombo? C'est qui?
Et j'ai pas le. Et j'ai pas le. Alors, ça, on va perdre l'autre moitié. J'ai pas le Macintosh et le vieil impair de Colombo.
C'est ça.
Alors. On va passer à l'outillage qui est assez étoffé aujourd'hui, enfin pour cet épisode. Déjà un petit flag de curl, donc curl qui est l'outil de ligne de commande pour faire des appels HTTP ou HTTPS, et il y a un --json qui est pas mal parce que ça évite d'avoir à écrire les headers application/json de content type et de accept, et donc c'est une version plus compacte où on dit juste curl --json et on passe le JSON et on envoie on donne l'URL et paf.
Le header est mis en place, l'accept, le machin, le bidule.
Ça.
Ouais. On peut même passer un fichier. Donc on fait un arrobas le nom du fichier, donc -json arrobas un lien vers un fichier, et ça, ça va injecter le JSON qui est dans ce fichier. Donc ça, c'est un autre truc vachement bien.
Comme pour quand on fait des data, quand on envoie les posts, des posts data fichiers, on fait pareil.
Docker fait du vélo hollandais.
Rétropédalage.
Non, parce que quand on rétropédale, on freine. Alors que là, il freine pas. Docker, il rétropédale juste.
C'était, on en avait parlé justement donc dans l'épisode il y a deux mois. Enfin, je n'étais même pas là, mais c'était il y a deux mois. Ils avaient dit ils voulaient tuer un vieux plan qui s'appelait le Free Team qu'ils avaient diffusé massivement il y a plusieurs années, et puis sur du ce truc là ça sert plus à personne, maintenant on a soit vous faites de l'open source, soit vous payez, soit etc. Ils ont voulu tuer le Free Team. Bon, ça il y a eu une ruée dans les brancards parce qu'effectivement il y avait quand même pas mal de gens qui l'utilisaient, qui étaient qui faisait de l'open source, en plus, quoi, alors pour s'enregistrer en tant que version open source, il y avait tout un process avec plein de règles, machin, de oui, il faut faire de l'open source, mais il faut pas faire du business, faut faire... Bon, bref, un truc compliqué. Donc finalement, c'était juste après l'épisode précédent, ils ont finalement annoncé que, bon, bah, on laisse tomber le free team plan, bon, bah, on le laisse, hein. Essayez quand même de migrer vers d'autres choses si c'est possible, parce que bon, ça serait mieux. Mais finalement, laisse tomber. Voilà. Donc, parce que au dernier épisode, on expliquait qu'ils avaient essayé de rewarder, ils avaient fait la fameuse méthode du gouvernement de, mais non, vous avez pas compris. Donc, on s'en était arrêté là, cette fois-là. C'était l'article du matin en question. Et là, maintenant, donc, ils ont passé de, bon, finalement, non, vous avez pas compris, mais bon, on a raison, vous voulez pas comprendre, en fait. Donc, on laisse tomber. Voilà.
On a mal expliqué, on va vous réexpliquer.
C'est ça. Bon, ça y est, là, ils ont abandonné. Ils ont bien compris que non, ça passerait pas même réexpliquer 50 fois. Voilà.
Du coup, si on avait fait la migration, ils vont vous rembourser et rester sur le plan. Enfin bref, il y a. Ouais, allez lire l'article pour avoir un petit peu le détail là-dessus. Sinon, GitHub, il y a quelques années, oui, avait démarré le GitHub Sponsor qui permettait de sponsoriser des projets open source, et donc on pouvait donner X par mois ou ce genre de choses. Et du coup, ils supportaient les cartes de crédit, PayPal, etc., etc. Et puis bon, bah là, ils disent bon, bah en fait, PayPal, on le supporte plus. Et ils n'ont pas expliqué pourquoi.
Non, c'est vraiment une ligne dans un changelog. Hein. C'est vraiment tout petit. Ouais. Je sais même pas comment les gens réussissent à le catcher. Enfin, si, quand t'es obligatoirement, ça a disparu des montants. Et puis alors, donc, il y a quelques articles, quelques commentaires sur leur discussion.
Ouais, c'était en janvier, hein, mais ouais. Donc on est un peu à la bourre, mais on fait un travail de fond là.
Oui, bah sauf que le temps que les gens réalisent que tiens, pourquoi j'ai moins d'argent qui arrive dans mon sponsoring, et justement c'est les commentaires là sur l'issue, la discussion, où effectivement bah certains projets open source ont vu leur montant diminuer de pas mal de pourcents, parce qu'effectivement ils avaient les paiements PayPal qui ont disparu. J'imagine en plus que comme il n'y a pas eu de communication, ça se trouve les gens qui, eux, se pensaient donner des sous à, de manière récurrente, bah, tout d'un coup, ça donne plus, bah, ils n'en savent rien, ils sont même pas au courant. Donc, c'est pour ça que, bon.
On a le même problème sur Patreon, les gens, ils suivent pas forcément parce qu'ils mettent ça dans un email un peu poubelle ou potentiellement. Et voilà.
C'est ça. Donc, n'oubliez pas notre Patreon, c'est d'ailleurs. Merci. Mais voilà, c'est, donc oui, ils ont retiré ça, pas d'explication, c'est pas du tout pourquoi. Est-ce que c'est des problèmes de piratage?
Alors juste, il se trouve que PayPal s'est refait tronçonner avec une... qu'on appelle ça un gros piratage encore, avec accès à pas mal d'infos pour pouvoir littéralement utiliser les comptes. Donc bon, normalement, ils ont corrigé, mais peut-être que c'était la goutte de trop et qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait d'utilisation frauduleuse et que ça soit utilisé pour blanchiment via un sponsoring. Tu vois, tu crées un GitHub repo, tu fais... À voir, mais il y avait peut-être d'autres moyens un peu moins agressifs.
Ouais, voilà. Un peu dommage. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage. C'était parce que moyen simple pour tout le monde de contribuer sans avoir à mettre de CB, etc. En plus, ça dépend des pays, mais c'est pas toujours pratique hein, d'avoir. Je crois qu'en plus, ils supportent pas des trucs basiques. Par exemple, en Europe, ils supportent pas les virements, les CEPA, etc. Ils supportent que la CB. Et par exemple, je crois que c'est en Allemagne que j'avais vu sur les commentaires où ils disent bah nous on fait les CB, non, on fait des CEPA, on fait pas les CB. Etc. Bref, donc en fonction des pays, etc. Ouais, c'est un retour en arrière qui est un peu compliqué.
Sinon, GitHub, par accident, a un comité, sa clé RSA, sa clé SS, enfin pour le SSH, sa clé RSA privée, du coup la partie privée de cette clé. Donc, alors ils l'ont enlevé et ensuite surtout ils l'ont mis à jour. Du coup, si vous avez, si vous utilisez RSA et pas les clés de courbe elliptique plus modernes, quand vous connectez en SSH, enfin quand Git se connecte via SSH sur votre GitHub, ben là vous allez avoir une erreur du type la clé n'est pas reconnue, êtes-vous vraiment sûr? Donc là, il faut que vous alliez dans bon .ssh slash authorize key, ou un truc comme ça.
C'est ça.
En fait, c'est .ssh slash known host. La trouver et la virer.
La virer pour voilà. Mettre la nouvelle. Enfin, pour que la nouvelle se mette à la place.
Ouais. Et alors, pour info, quand la clé privée, elle sort, en fait, c'est quoi l'impact? C'est pas que les gens pouvaient accéder à GitHub, aux données privées, etc. C'est plutôt qu'on peut faire un man in the middle, puisque maintenant, on a la clé, on peut dire, bah tiens, moi, je suis tel DNS. Donc, si on peut faire github.com et de dire, bah regarde, j'ai le certificat qui va bien, et du coup, de tricher comme ça.
C'est ça.
Dernier outil. JReleaser, le deuxième anniversaire de ce petit outil bien pratique pour publier en fait sur plusieurs, ce que je vais appeler des App Store, Homebrew, Jbang. Maintenant en fait les gens veulent des, donc ça c'était à la base, c'était pour toutes les déploiements natifs de Java, mais qu'on veut déployer sur plein de choses comme Homebrew ou d'autres, enfin d'ailleurs natif ou pas, mais c'était particulièrement utile pour natif. Voilà, ils ont rajouté maintenant la publication sur Maven Central de manière automatisée, publier les annonces sur Twitter, Zulip, etc. Et aussi publier les changelogs qui vont bien un peu mieux former quand on fait une publication sur GitHub en tant que binaire. Voilà, donc un petit outil bien pratique si vous avez un projet open source et que vous voulez automatiser votre release pour passer le moins de temps possible.
Puis c'est rigolo parce que sur le blog, il parle un peu de la genèse et c'est vraiment deux potes, donc Almira et ouais. Puis Max qui se mettent autour d'un verre. Et puis je crois que Max avait déjà créé Jbang. Et donc voilà, ouais. il brainstorm sur ce qui allait devenir JReleaser qui en est à sa deuxième année. Tout à fait.
Allez, on passe à l'architecture avec une introduction sur les Cloud Events, pour si vous ne savez pas trop ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Et donc, les Cloud Events, ça permet d'écrire des événements dits de données, donc liés à la data, et de manière commune, en fait, via un standard. Et ce qui est standardisé, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est pas la donnée elle-même, mais c'est les métadonnées autour. Donc ça peut être en JSON ou dans d'autres formats, et ils ont un format qui s'appelle Cloud Event plus JSON par exemple, et puis après il y a d'autres types de formats type Protobuf, Avro, voire même XML qui est pas en version finale encore. C'est assez rigolo parce que nous on est venu de l'univers où c'était carrément l'inverse. Et les métadonnées, en fait, l'idée, c'est que c'est Microsoft hein, qui avait fait Cloud Event, qui avait proposé. Mais en tout cas, c'est les métadonnées, elles incluent idéalement assez d'informations pour le routage de ces événements-là vers la cible qui veut la consommer. Donc, ça a un identifiant, la source, le type d'événement, un sujet, la date, voilà, et le type de contenu de données, potentiellement le schéma de données, et après on peut avoir des versions, des extensions spécifiques pour rajouter un peu plus de métadonnées, parce que les celles de base étaient un peu, moi je trouve, un peu limitées pour ça. Et après ils ont plusieurs modes, un mode binaire où les données sont dans le cœur du message et les métadonnées en tant que header, donc ça c'est envoyé en gros via HTTP. Ça, c'est bien pour minimiser le parsing. Donc, on regarde juste les headers et puis on sait où router en avance. Le mode structuré, c'est les métadonnées et les données sont dans une enveloppe, par exemple une enveloppe JSON, et tout ça, c'est envoyé comme ça. Donc là, on a plus de flexibilité, mais il y a plus de parsing à faire. Et le mode batch, c'est on envoie plusieurs messages en un seul coup. Donc, les formats, j'ai parlé, JSON, Protobuf, Avro, XML. Et les protocoles, HTTP, AMQP, Kafka, MQTT, NATS, que je ne connais pas, et WebSocket qui est en draft. Ouais,
et ce qui est intéressant quand même, c'est que les contributeurs à l'aspect, vous avez Amazon, Alibaba, Confluent, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Red Hat, SAP.
Et pas mal de SDK. Moi, j'étais étonné aussi par le nombre de SDK. Effectivement, tous les langages sont bien supportés. Go, JavaScript, Java, C#, Ruby. Enfin, voilà, ils y sont tous. Même du Ruby. Ça, c'est pour moi.
Il y a une petite histoire. Ah, c'est vrai que c'est en Ruby dans ton nouvel employeur, comme tu dis.
C'est ça.
D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec GitHub qui t'a pourri ta semaine?
Ah, j'ai pas, mais j'attends toujours le post-mortem pour me fâcher. Bah, effectivement, c'est tombé. Enfin, bah, là, je pense que tous les utilisateurs en ont souffert pendant toute la semaine. Il y a eu des tonnes d'outages cette semaine sur GitHub.
Je suis en vacances cette semaine. Ah,
bah,
tu ouais.
C'est ça. Bah, ça, c'est.
Tu râlais sur Twitter.
T'as eu le pied de bon nez d'être en vacances. Non, ça a été très, très instable, le service. On sait pas trop ce qui s'est passé. Après, il y a plein de théories complotistes sur le net.
C'est suite à tout le monde
qu'ils ont viré il y a quelques mois, et puis bah voilà, ils ont viré tout le monde, et puis bah bizarrement bah ça marche plus. voilà, donc mais ça c'est des bruits de couloir complètement infondés. Donc ils ont eu pas mal de soucis de stabilité, que ça soit sur la partie Git pure, hein, le Git tu pouvais même pas check-outer, ou c'était super lent, des problèmes de perf, etc. Donc beaucoup de problèmes de perf. La UI qui était inutilisable, les pull requests qui se chargeaient pas. Hier il y a encore eu des problèmes, à un moment elles disparaissaient, tu les voyais plus sur la UI, etc. Donc c'était embêtant. Et puis bon, pour ceux qui utilisent GitHub Actions, la même chose, les actions qui étaient complètement perdues, les queues qui passaient pas. Donc nous c'était voilà. Donc ils m'ont fâché.
Skynet est devenu aware, mais il s'est pris les pieds dans le tapis. Il s'est éclaté la face.
Je me souviens quand même d'un tout premier talk au Paris Jug sur Git. Et là, je vous parle d'il y a 12 ou 13 ans. Tout le monde était sur Subversion V Consort et Git arrivait. Et je me souviens, Git c'est super, c'est distribué, tu peux bosser même s'il n'y a pas Internet.
Ah,
ah le mensonge.
C'est ça. Bah en vrai tu peux, mais les pull requests ont recentralisé.
Ah c'est ça, c'est que tu peux bosser, mais après tu peux plus rien faire au niveau au niveau automatisation et tout, donc.
Alors, sur l'architecture toujours, GraphQL, un petit retour de quelqu'un qui dit GraphQL, tout n'est pas si rose. En fait, vous savez, il y avait les web services avec SOAP, etc. Puis ensuite, REST est arrivé avec cette notion de ressources. Et en fait, on compose les ressources. On peut même les naviguer avec EtoAS ou ce genre de choses. Voilà. Donc, il y avait toute cette approche-là. Et GraphQL est arrivé avec une approche, alors pas du tout REST pour le coup, puisque c'est un seul endpoint qui adresse toutes les, je sais pas si je vais appeler ça des ressources, on peut appeler ça des ressources, mais toutes les ressources en tant que schéma, en fait, toutes les entités. Et après, on exprime des requêtes de lecture ou de modification d'ailleurs sur ce graphe-là. Et idéalement, il y a un seul endpoint pour adresser toutes les données nécessaires à l'application, et l'application est plus flexible de ça. Et ça vient de Facebook, qui pense en tant que données et de graphes de données. Donc ça, c'est donc d'où la notion de GraphQL. Et c'était quand leur appli mobile, ils sont passés de on va faire un web endpoint à des applis natives, et ils se sont dit ah ouais, mais on a en fait il y a telle appli qui a besoin de ces données, telle autre appli qui a besoin de telle autre donnée, et ça devenait un petit peu pénible. Et ils se disaient, si on faisait du REST, on aurait eu des dizaines de endpoints et beaucoup d'appels. Bref, donc ils voulaient une solution alternative là-dessus. Et l'idée, la théorie des choses positives, c'est qu'on fait une seule requête pour plusieurs ressources. Donc, c'est en termes d'aller-retour au niveau mobile vers le back-end, c'est top. Et après, le back-end va se débrouiller avec tous les autres back-ends pour ramener les bonnes informations. C'est ça l'idée de GraphQL. On peut sélectionner uniquement les données dont on a besoin, parce qu'on peut littéralement mettre une clause select et de sélectionner vraiment spécifiquement ce qu'on veut. C'est typé entre le client et le serveur, donc il y a un schéma qui est partagé. Et puis du coup, comme c'est typé, on peut avoir un meilleur outillage pour le dev et pour explorer justement les schémas, et du coup décider des requêtes qu'on veut faire. Et puis un truc qui était annoncé, c'était que du coup on n'a pas de souci pour les versions, on rajoute juste les propriétés dans les entités et tout va bien se passer. Et donc ça c'est et ensuite l'article continue. Donc ça c'était la théorie, et ensuite l'article continue sur le. En gros, c'est une équipe qui a commencé en 2019 à utiliser GraphQL, et cette personne qui dit aujourd'hui je regrette un peu. Alors il y a pas mal de points, et ça reste son point de vue à lui, mais c'est intéressant de un peu de ce petit retour de la désillusion comme on dit. pour eux, les perfs optimisés par le choix spécifique des données, d'avoir un selling point, c'est pas forcément matérialisé pour eux. Notamment parce que la bande passante entre en fait c'est bien quand on a un mobile et donc avec peu de bande passante etc, mais on a beaucoup d'utilisation de machine à machine ou de client desktop à serveur, et à ce moment là le besoin est pas si fort que ça d'aller réduire le plus possible la bande passante. Et donc pour eux, je crois que j'ai l'impression que les perfs sont pas matérialisés, notamment la latence du GraphQL est plus haute qu'un service REST, ce qui est pas illogique du tout, hein, mais quand la latence est extrêmement importante pour toi, c'est un point clé. Eux, leur retour d'expérience, c'est qu'en vrai, les écrans mobiles et les écrans desktop, ils affichent quasiment les mêmes choses à des pouillèmes près, donc cet avantage théorique du filtrage des données, il est pas si fondé que ça. Que les schémas, c'est top, mais en pratique, eh ben, il y a toujours la synchro entre le front et le back. Et du coup, là, on fait du code first, mais à ce moment-là, on a un code front, un code back. Et donc, comment on synchronise un peu là-dessus? Est-ce que le schéma, il est généré proprement entre les deux? L'autre approche, c'est du schéma first. Donc, le schéma va générer le code, mais après, ça dépend de la qualité du code généré. Est-ce que ça s'intègre bien avec votre stack technique, etc.
Gestion des erreurs et tout ce qui va bien.
Ouais, ça, c'est un autre point. C'est-à-dire que tu veux dire au moment de la génération?
Après, le code généré... ça, gérer à ta convenance, justement, les problématiques d'erreur, handling, ouais. etc.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est un problème, c'est que les erreurs, en fait, en REST, au moins, on a les erreurs HTTP. Mmh. Du coup, on avait une sémantique et un endroit. C'est un peu comme les exceptions. On avait un endroit clair où regarder les erreurs et les retours. En fait, c'est dans le body lui-même qui est ramené, qu'il faut regarder. Donc, il faut checker la donnée elle-même pour savoir si on est en erreur ou pas. Et donc, on a tendance à l'oublier, et du coup, pas gérer les cas d'erreur ou de parser un truc qui est tout bizarre, parce qu'en fait, c'est une erreur. Hein, bref. Il explique aussi que version free, en fait, c'est un peu du bullshit parce que on a des schémas, mais les schémas, on veut pas les casser. Donc, il faut quand même réfléchir à la compatibilité. Si on dit on n'utilise plus telle propriété, on a quand même des anciens clients. Enfin, bref, ça reste quand même assez problématique. Et donc, la notion de non-version, elle est pas claire. Au niveau de la pagination, déjà, c'est hors du standard. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est pas forcément partagé au sein de la communauté comment le faire. Donc, il zoome pas dans le détail, mais bon, visiblement, il a l'air de dire que c'est assez compliqué. Et le caching est beaucoup plus, c'est pas qu'il est plus primitif, mais qu'il est plus difficile comparé à REST. Donc, on peut pas mettre un serveur de type Squid, un proxy au milieu parce que ça dépend littéralement de la requête. Donc, il faut aller, et des variables de cette requête-là plutôt qu'un REST qui dit si telle URL est envoyée, tel résultat est forcément le même. Voilà, donc ça complexifie un peu le caching. On a... Alors, la flexibilité, c'est qu'on peut requêter toutes les entités, les liens entre eux, etc. Le problème, c'est qu'on peut requêter toutes les entités et les liens entre eux. Et donc, si on a un client un peu abusif, voire malveillant, on fait tomber le serveur. Ouais. Et puis, l'implémentation naïf, elle dit, je fais telle entité, puis ensuite on analyse les autres entités, puis on va aller chercher une par une. Donc, on a le même problème que dans les ORM, le fameux N+1. Sauf si on fait une implémentation un peu spécifique de pour aller chercher l'ensemble des données en une seule requête, où on a un seul appel REST en dessous. Mais du coup, ça demande du travail avec les data loaders explicites. Du coup, voilà, en fait, c'est un peu plus flou ce qu'on doit optimiser versus pas optimiser. Mmh. Alors après, il y a des requêtes qu'on a figées, je crois, dans le protocole. En général, en dev, il laisse faire toutes les requêtes. En prod, il limite la liste. Il y a pas mal de serveurs qui permettent de faire ça. Il n'en a pas parlé, lui. Ça fait ça. Et pareil, la sécurité, elle est plus compliquée parce que la navigation étant libre, il faut vraiment savoir pour telle personne, elle a le droit à voir ça, mais pas ça. Comment on propage les contextes et qu'on les enforce, c'est pas simplissime. Ouais. C'est pas simplissime. Alors que si chaque REST endpoint gère son truc, au moins lui définit sa frontière et ses droits.
Sur l'objet, voilà. Alors que là, effectivement, il faut le faire en back-end et il faut tout mapper individuellement en fonction de ce que tu récupères en query. Donc.
Voilà, ou alors si le back-end du back-end, c'est-à-dire les REST endpoints eux-mêmes le font, il faut à un moment faire le bridge et standardiser ça. Enfin, ouais. Voilà, c'est pas forcément
c'est une trans, super simple.
Ouais. Ouais. Et puis il dit, en fait, il dit, il n'a pas expliqué comme ça, mais en gros, paradoxalement, il trouve que l'écosystème est pas super mature et surtout, il a explosé, donc il y a beaucoup d'options. Et du coup, on ne sait pas quoi choisir. Voilà, il y a plein de clients différents, plein de serveurs potentiels différents, etc., etc. Ouais. Et il comparait notamment avec React, qui reste à la poigne de Facebook, alors que là, Facebook a créé une fondation GraphQL qui a ouvert tout un écosystème, donc c'est top. Mais aujourd'hui, ben, ça demande un effort de compréhension pour choisir les bons acteurs pour votre besoin. Ouais. Tu utilises, toi, t'as déjà utilisé?
Non, j'ai jamais utilisé directement. Enfin, je suis toujours retombé sur du REST, en fait. GraphQL, je me suis posé la question plein de fois, mais c'est vrai que ça m'a paru compliqué et la marche a passé pour une valeur qui m'était pas, enfin, qui semblait pas être vraiment celle que j'attendais. Et puis, c'est vrai qu'en termes d'écosystème, il y a un énorme support sur REST pour tout et n'importe quoi. Enfin, dans tous les langages, tout ça. Enfin, t'as quand même une maturité et voilà. Donc c'est vrai que moi je suis resté casanier sur mon petit REST machin etc. Après je dis pas que REST c'est simple et c'est parfait hein, ça reste compliqué.
Il y a REST assure mais il y a pas GraphQL assure peut-être.
Voilà c'est ça. Je sais pas. Pas. Mais ouais donc non effectivement je suis pas peu d'expertise sur GraphQL.
On va passer aux méthodologies. Et notamment un espèce de panel de InfoQ sur les tendances technologiques.
Ouais. Non, enfin je peux en parler. C'est un article. C'est marrant. J'ai pas retrouvé un autre article qui était justement qui prenait un autre axe sur les retours aussi justement post-pandémie avec les changements. Mais donc là il souligne qu'il y a quand même beaucoup d'effets avec les licenciements. On a bien vu hein, les layoffs. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Les layoffs dans l'IT, il y en a eu de nombreux. Et donc ça a cassé un peu le l'aspect la safety donc le fait que voilà on était dans un
c'est difficile je l'ai pas traduit parce que j'ai
et
pas
trouvé oui j'étais en train de chercher mais je vois pas en fait
en anglais c'est la psychological safety donc c'est le fait de se sentir en confiance
voilà ça c'était
qu'on peut expérimenter sans se faire sans se faire taper dessus
on était un peu les rois du pétrole on n'avait pas de problème à trouver des jobs on pouvait faire vraiment tout ce qu'on voulait machin etc. Tout d'un coup on se rend compte que c'est un peu fini cette période là. L'IA générative, donc il parle effectivement de l'impact sur la productivité du développeur. Ça, on voit bien qu'effectivement, ça se développe de plus en plus. Les IA, les services qui sont aujourd'hui et encore plus ceux qui vont sortir demain, c'est gigantesque et ça va vraiment aider. Après, il y a des faiblesses significatives sur ces utilisations. Il y a plein de biais, il y a plein de... à toujours mettre entre les mains de personnes expertes et de personnes juniors, ça va avoir des effets différents. Donc beaucoup de retours là-dessus.
Ouais, Max, mon collègue et copain là, Max Anderson disait, je trouve que c'est un rubber duck, donc un canard qui est vraiment super efficace et qui j'avais pas pensé à ça et c'est voilà et donc entre les mains d'experts c'est un outil démultipliant.
Voilà, mais faut bien l'utiliser et c'est ça qui est bien, c'est enfin quand tu l'utilises dans cet axe-là en tant que rubber duck où effectivement ça te permet de te challenger et c'est bien, le truc c'est justement c'est de pas en abuser et de te dire ça va t'apporter la solution et faire bêtement du copy-call comme on fait du copy-call avec du Stack Overflow, etc. Donc, on aurait toujours le même problème de, il faut avoir soi-même quand même suffisamment de compétences pour challenger ce qui est fourni en face, que ça soit du Stack Overflow, que ça soit une IA. Si on prend juste bêtement la réponse, il y a des chances qu'il y a des problèmes qui se posent assez rapidement. Au-delà du légal, les responsabilités sociétales deviennent de plus en plus importantes pour retenir les employés et les clients. Donc ça, on le voit dans beaucoup d'entreprises, effectivement, l'impact sur le bien commun, que ça soit justement que ce soit l'écologie, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses où on voit que aujourd'hui les gens recherchent d'autres choses, que ça soit en tant qu'employeur ou que ça soit en tant que vendeur et tout ça. Donc il y a une éthique quand même qui se crée un peu plus qu'on pouvait voir il y a quelques années. Le travail asynchrone devient plus accepté socialement et adopter les pratiques apporte des bénéfices réels. Alors ça, je suis,
Je trouve que c'est un peu naïf.
Ouais, c'est un peu naïf, voilà. C'est, alors moi, clairement, je suis convaincu, c'est pas le problème. Maintenant, de là à ce que ça soit vraiment un changement si fort, on voit des tonnes de retours en arrière, justement, de plein d'entreprises qui disent « bon, ça y est, la pandémie, c'est bien gentil, vous en avez bien profité, maintenant vous allez revenir travailler à la maison, enfin à la maison, au bureau ». Donc c'est pas encore bien clair pour tout le monde et surtout qu'il y a eu beaucoup pas d'abus mais beaucoup d'entreprises qui sont passées au remote etc sans vraiment y passer. C'était vraiment au mode je fais le minimum pour survivre pendant la pandémie qui effectivement n'a pas porté les gains associés. Donc travail hybride devient la norme. Bah pareil, c'est sûr que les gens demandent de plus en plus de flexibilité, flexibilité sur leur capacité à venir, sur le quand, le comment et tout. Pareil, enfin c'est entre la réalité et la pensée générale, je pense qu'il y a encore une différence. Il y a quand même beaucoup d'employeurs hein, qui restent dans la logique. Tu travailles de 9h à 17h derrière ton ordinateur et puis je peux te fliquer. Voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez assez présent. Voilà.
Ouais. Alors, on va passer à une énorme rubrique loi, société et organisation.
Oui, c'est vrai.
En fait, quand j'étais en train de taguer les nouvelles, là, je me dis, mais dis donc, en fait, on va faire que loi, société et organisation sur ce coup-là. Et puis non, quand même, il y a des parties un peu plus techniques qui sont venues.
On croira quand on fait le CFP d'Evox où on met tout en people, management, machin, etc. Et on a un track qui dit, ouais, on a 500 propositions, au secours.
Ouais.
Allez, déjà une bonne... youhou, 30 ans pour Red Hat. 30 ans déjà.
Ouais.
C'est quasiment...
30 ans de la... Parce que si d'amener Linux à... Linux en entreprise, en gros.
Ouais. C'est,
Et plus, évidemment, mais...
Donc, c'est un... bon, l'article est très court, hein. c'est le blog post officiel de Red Hat qui revient sur la création donc il y a 30 ans. Tu vois, ça fait combien d'années que tu y es déjà ? Ça fait au moins 10 ans.
Et là, ça fait longtemps, hein, genre 17.
17, toi. Oh là,
ou 16, je sais plus, un truc comme ça.
Voilà.
Ouais.
Donc, bon.
Pas un an, parce que j'étais chez JBoss avant, mais bon, bref.
Ah oui. Oui.
Parce qu'on compte les rachats, mais j'étais pas chez JBoss depuis très longtemps, donc ça fait 15.
Eh ben. Voilà,
comme ça.
Donc voilà, donc ils reviennent sur la création par Bob Young, Mark Ewing, à l'époque. Voilà.
Ouais.
Et les bureaux qui sont à. J'étais passé à côté, plus tard à Raleigh. C'est ça.
Caroline du Nord.
C'est là les premiers bureaux historiques étaient là tout du moins. Et c'est là. Je sais pas. C'est toujours le headquarter. Ouais.
C'est toujours là. Ouais.
Donc ouais. 30 ans déjà. 30 ans pour. Et effectivement, les tout débuts de Red Hat, c'était vraiment ouais, c'était Linux et c'était les premières. C'était le Red Hat de Linux. Enfin voilà. C'était ça Red Hat à l'origine.
Bah, une des premières distributions. Mandrake.
C'est ça. On avait Mandrake. On avait je sais plus quoi d'autre. On a quelques-unes. Voilà, il y a 30 ans. Mais bon, là, ça, c'était la bonne nouvelle. La plus mauvaise nouvelle, c'est que il y a eu l'annonce d'encore d'un licenciement. 4%.
Ouais, j'ai rejoint mes copains mes copains Arnaud et Guillaume.
T'es toujours là, c'est bon, t'es toujours accroché à ton siège. Bon, ouais, 4% des.
Si tout va bien.
4% des employés. Donc, IBM avait déjà annoncé. Donc, enfin, pareil. Donc, Red Hat a été acquis par IBM. C'était quand? C'était il y a 2 ans, 3 ans? Je m'en rappelle plus.
2019. Donc, non, ça fait 4 ans. Ouais.
A été acquis par IBM. IBM avait déjà annoncé, donc, un layoff de quasiment 4000 personnes, il y a quelques mois. Ouais. Et donc là,
qui n'avait pas affecté Red Hat, parce que enfin,
était à l'époque vraiment que IBM. Et là, donc, ils ont annoncé qu'ils rajoutaient à la charrette 1 millier de personnes de chez Red Hat, c'est ça, ouais, je crois.
800 et quelques.
Ouais, c'est ça, un petit millier. Voilà. Donc bon, on en revient toujours au problème que la situation reste compliquée, même si les entreprises font toujours des bénéfices. Hein. Red Hat, les premiers, ils ont des chiffres de, c'est quoi, 8% quand même. Hein. Donc bravo quand même, 8% sur Q1. Mais bon, ça faisait, vous aviez trop habitué.
Ah, c'est pas les bénéfices, ça, c'est la croissance du revenu.
Ah, j'ai pas vu. La croissance, ok. Ouais. La croissance.
Enfin, c'est ce que tu as écrit.
C'est possible que j'ai écrit ça. Oui, c'est la croissance, effectivement. Mais sauf que vous aviez habitué IBM à faire une croissance de 15% par trimestre. Bah voilà.
Voilà.
Ouais, voilà. Ça, IBM, ils ont pas été contents. Voilà. Non, enfin, ça touche effectivement tous les grands acteurs. On le voit bien. Donc, c'est, il y en a tellement. Enfin, voilà. Toutes les semaines, si vous suivez les news, des layoffs dans toutes les entreprises, il y en a partout dans l'IT. Donc, voilà. Donc, ça continue. Ça continue. Accrochons-nous au siège.
Ouais. Et je discutais avec, ou plutôt j'entendais une réaction de quelqu'un. Ouais, je discutais pas avec lui parce que c'était en l'occurrence c'était un podcast. Et il disait, c'est curieux parce que, bah déjà comme tu dis, c'est vraiment centré sur l'IT. Moi, j'ai pas l'impression. Alors, je suis moins expert, enfin, je suis moins versé dans les nouvelles économiques de d'autres industries, mais ça a pas l'air si touché que ça. Et puis, d'habitude, ces réactions-là, elles arrivent quand il y a une contraction de l'économie. Et donc, on dit, bon, bah, il y a une contraction, on enlève X% de gens, qui est valide ou pas. Mais en tout cas, ça arrive après la contraction. Et là, ça arrive pré-contraction. S'il y en a une ou pas, on ne saura.
C'est ça.
On ne voit pas le futur. Mais en tout cas, ça arrive avant. Et du coup, la personne disait, mais c'est quand même curieux, ils doivent savoir des choses qu'on sait pas parce qu'ils sont tous à vraiment flipper, flipper leur race, comme on dit en bon français.
C'est ça.
Voilà. Du coup, voilà. Mais bon, après, on en avait parlé. Il y a un peu un effet de, ah, mais il y a le voisin qui l'a fait, donc pourquoi toi tu le fais pas? Il y a le fameux right sizing du genre, ah, bon, on avait un peu surembauché, on désembauche après. Je pense pas que Red Hat, je sais pas, c'est une bonne question. Ouais. D'ailleurs, je vais pas parler de ça parce que.
Non, mais sur toutes les entreprises. Après, effectivement, il y en a certaines qui ont été vraiment impactées avec la crise Covid et qui avaient fait des plans sur le futur et qui se sont dit, ah, ça y est, bah, la société va changer, plein de choses ont changé suite au Covid et donc on va développer telle ou telle chose. Enfin, on a vu hein, des gros booms chez les à l'époque les Zoom, les il y avait des noms comme ça qui ont explosé avec la pandémie, qui ouais. Après post-pandémie, tout le monde s'est dit ouais, ça restera pareil, tout le monde va rester à faire du virtuel, tu vas revenir au bureau, les confs, on va les refaire en physique. Bon, non, finalement, on est revenu en arrière. Ouais. Donc, il y a plein d'acteurs comme ça qui, chez qui, bon, il y a vraiment eu des choix qui, se sont pas faits. Et après, effectivement, il y a tous les aspects économiques qui jouent et les prédictions. Parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est pour beaucoup, c'est pas qu'ils sont aujourd'hui dans le rouge ou quoi que ce soit. C'est que pour ne pas l'être dans X années, ils préfèrent dès maintenant réduire la voilure et mettre un petit coup de frein à main. Voilà. Donc, situation inconfortable.
C'est moins sympa que dans Fast and Furious. Ouais. J'ai pas vu les films, mais je pense
qu'il y a un nouveau qui sort. Il y en a un nouveau qui sort là dans pas longtemps. Mais exactement. C'est vachement moins vibrant comme sensation.
Alors, on l'a gardé, on n'a pas voulu en parler à Devox, celle-là, mais Crazy Bob, qui était en fait un contributeur Java EE et plein d'autres choses, en fait, est décédé à San Francisco. Il a été tué par quelqu'un, en gros. donc ça nous a pas mal, enfin je sais que moi ça m'a beaucoup touché parce que j'ai travaillé avec lui, c'était toujours un gars super joyeux, essayer de toujours trouver des solutions et très brillant aussi techniquement. Il a fait le Aspect J, je crois, enfin le aspect orienté de programming. Il a fait voilà l'injection de dépendance notamment
via il Juice, avait pas mal bossé au début sur CDI
Atinjax, c'est ouais. Lui aussi. Mm-hmm. Bin validation, il a aidé, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses là-dessus, qui était parti après chez Square, il s'était retrouvé CTO, voilà. Ensuite il était sorti, il avait aidé à faire plutôt au niveau d'aider des startups à avancer en fait, comme certains de la tech qui ont gagné assez d'argent. Passe un peu à ça. Et ah oui, et Android oui, évidemment, oui. Puisqu'il est passé ouais. Par Google, sur lequel il a
beaucoup,
contribué Android.
Ouais. Ouais, lui, Dagger, ouais, ou il avait contribué à Dagger. Et donc on en sait un petit peu plus. A priori, ça serait donc il a reçu quelques coups de couteau à 2h du matin et on en saurait un peu plus puisque il y a le frère de la copine avec qui il était qui a été qui est jugé en ce moment ou je sais plus trop quoi. Donc voilà.
Ouais, parce qu'au début on s'est dit ah c'est un crime, genre ouais, c'est
un crime de rue,
un sans-abri, ouais. Voilà,
un ça crime serait de rue un peu des règles priorisantes en fait, familiaux, machin, bidule.
Ouais. Ça serait bref, ciblé. Ça serait
pas... Donc, si vous le connaissez, voilà, il y a pas mal de gens qui ont partagé des souvenirs sur un thread Hacker News sur lui. Mais après, il était assez tranché. Voilà, il était ouais, anti-spring, anti-groovy, anti-lambda.
Anti-CDI, alternatives. Je me souviens que lorsqu'il y a eu le fork CDI à Tinject, en plus, à Tinject est arrivé à la fin. Enfin, c'était pas.
Ouais, en 6 mois, qui était le temps le minimum.
Il était un peu. Ouais, il avait des idées techniques et il les menait, jusqu'au bout.
Ouais. Voilà. Bon, ben, paix à son âme. Et puis,
il n'avait pas 50 piges, il n'avait pas encore 50
ouais,
piges.
C'est quoi. Ça qui m'a pas mal touché, c'est qu'en fait, on est là, en gros, la même génération, on a fait les mêmes genres de jobs, donc c'est assez.
Il avait assez des gamines, enfin voilà quoi, le truc.
Ouais. Bon, bah, sur ce, on va te laisser, Antonio.
Mais écoutez, je guette mon Teams dès que ça démarre, je vous quitte.
Donc un qui a bénéficié non pas du Covid mais d'une autre chose, c'est Mastodon.
Mastodon, ouais.
Qui alors ça date un peu de cette nouvelle. Oui. Alors on va vous donner les dates quand même. Oui. C'était évidemment Mastodon. Alors c'est en mi-mars 2023, Mastodon a dépassé les 10 millions de comptes. Voilà. Donc, bravo. Et bien, on le sait qu'en plus, c'est vraiment un effet de plus il y aura de gens, plus ça sera utile, plus les gens seront là. Moi, j'avoue que je suis un peu encore en mode, ouais, mais j'ai quand même plus d'interactions et plus de gens qui lisent sur Twitter. Bon, après, j'y suis quand même vachement moins. Mais voilà. C'est ça. Du coup, j'ai mon compte, mais je suis assez passif. Je le reconnais.
Là-dessus. Pareil. Non, pareil. Sur Mastodon, j'ai jamais réussi à. J'ai mon compte comme toi, j'ai quelques followers et j'en follow, mais j'ai pas réussi à ce que ça devienne une habitude. Bon, Twitter, j'arrive encore à regarder au moins un peu tous les jours ou plusieurs fois par semaine, disons. Mais alors, ouais, Mastodon, j'arrive pas. Enfin, après, c'est toujours le même problème. C'est quand t'en as un, c'est sympa, bon, tu le fais, etc. Quand tu commences à en avoir deux, trois, machin, etc. Ah ouais, bon, là, c'est.
Ouais.
Je me vois pas effectivement tout le temps switcher entre
faire sa routine.
Les réseaux sociaux, ouais. Il y en a quand même beaucoup, donc toujours pas réussi à switcher. Maintenant, on verra bien ce que Twitter fait du futur. Il y a beaucoup de changements en cours. Il y a la nouvelle CEO, je me rappelle plus son nom, qui vient d'être annoncée ce matin ou cette nuit. Donc il y a une nouvelle CEO qui va remplacer Elon, qui a été nominée. Je crois qu'elle arrive dans quelques temps. Elle est pas encore en poste. Voilà. Donc Elon va devenir CTO de mémoire de ce que j'ai lu, CTO et advisor. Voilà. Donc,
d'accord.
Donc ça bouge.
Alors, juste pour info, il y a ces 10 millions de créations de comptes, c'est pas forcément des comptes actifs. Ouais. Donc, certains estiment à 6-7 millions de comptes actifs, avec une certaine définition d'actifs. Donc, je sais pas si je suis actif ou pas. Voilà. Sinon, alors c'est pas que c'est une bonne nouvelle, mais bon, c'est plus dans la logique de la vie. Gordon Moore, est mort à 94 ans. Gordon Moore, pour ceux qui savent pas, c'est un des fondateurs d'Intel. Ce qui est rigolo pour la petite histoire, c'est qu'il était chimiste de formation, et puis un des premiers jobs, on lui a demandé de faire des analyses, enfin de travailler autour de la bombe atomique.
Nucléaire, ouais.
Ce qu'il a refusé. Il s'est retrouvé, c'était à l'époque du projet Trinité. Manhattan, pardon. Donc il s'est retrouvé dans la Silicon Valley. Et il travaillait à essayer d'optimiser les transistors. Et là, il a travaillé au premier truc qui dit on va faire plusieurs transistors pour faire une fonction d'un peu plus haut niveau. Donc les premiers semi-conducteurs, voilà, qui de base arrivaient avec X transistors qui faisaient une fonction. Et puis donc il avait fondé ce truc là et ensuite c'est pas expliqué dans l'article, mais après il fonde Intel. Et Intel, c'est intéressant, c'est un des premiers à parier sur le silicium. Donc à l'époque c'était pas fait en silicium ces choses là et Intel à la base il construisait de la mémoire, en fait, la, j'imagine, de la RAM,
la RAM, ouais.
Et pas forcément des CPU. Et après, bon, ils sont, j'imagine, attaqués à ça assez vite. Et surtout, c'est les premiers à avoir fait une puce intégrée recoupant plusieurs fonctions. Donc, ça pouvait faire enfin, c'était pas ça à l'époque, mais CPU et GPU, donc avoir beaucoup de fonctions et d'avoir un, ben, c'est le CISP, les complexes instruction sets, mm-hmm. voilà, qui ont démarré à ces moments-là.
Et ce que tu n'as pas mentionné, c'est que si vous ne le connaissez pas en tant que fondateur d'Intel, parce qu'effectivement, je pense que beaucoup de personnes ont certainement pas ça en tête, il y a la loi de Moore, que là, par contre, beaucoup ouais. ont pu entendre parler en tant qu'informaticien, donc celle sur laquelle bah, on dit que les microprocesseurs vont continuer à... Alors, je ne sais plus c'était quoi, c'était doubler la capacité, je ne sais plus ce qu'il avait dit là.
C'est à prix constant, doubler leur capacité de la puissance de calcul tous les 18 mois.
Ouais, c'est ça. Et voilà, donc c'était lui qui avait établi cette loi à l'époque en disant, bah voilà, on sera capable de...
C'était avant Intel d'ailleurs, il avait prophétisé, alors j'ai plus le nom de la, ouais, la boîte fou. D'avant, mais il avait prophétisé à ce moment-là.
C'est ça, voilà, donc si, voilà, pourquoi vous pouvez vous souvenir de Moore, la loi de Moore.
Ouais. Bon, il était à Hawaï, il a passé... je regardais, il a une bonne retraite.
Oui, c'était... Enfin, c'est...
Parce qu'il a arrêté, je ne sais plus quand il a arrêté.
Il a donné...
C'était après, après la limite de la loi française. voilà, ensuite, bah, Twitter a open sourcé ses algos de recommandation, en tout cas une partie du code. Donc, il y a un blog de Twitter qui explique ça.
Excuse-moi, mais enfin, open source, ouais. Il a mis en public une part, enfin son code deux fois ou une ou deux fois depuis le début qu'ils l'ont annoncé. De là à dire que c'est de l'open source, j'aime pas trop ce terme open source parce que enfin il n'y a pas vraiment de communauté. Enfin voilà, ils ont dumpé leur code dans un repository GitHub une ou deux fois qu'ils ont mis à jour. On en est loin de se dire qu'ils vont faire prendre des retours et que les gens vont contribuer. Voilà. Juste petite remarque.
Et c'est quoi la licence? Parce que c'est AGPL3.
Petit malin. Oui, pour ça.
Petit malin. AGPL3 et des licences non connues. Donc bref, à zoomer un peu sur... Ouais. Le code a été ouvert, voilà. Est visible.
C'est ça, voilà. Le code est visible.
Alors, une partie parce qu'il manque... je ne sais plus, quelqu'un disait qu'il manquait autour de 30% des choses ou 20%. Voilà. Mais en tout cas, quelqu'un fait donc ça c'est le il y a eu le blog de Twitter et puis il y a eu un article de quelqu'un que je trouvais plutôt intéressant. Je sais pas si toi tu veux aller zoomer là-dessus.
Si, bah il expliquait justement un petit peu le donc ils ont il y en a qui ont donc pris le courage de détricoter un petit peu le code, de voir justement les algos un petit peu, on va dire. Pas rigolo, mais les petites exceptions. Alors, je sais pas si c'est encore dans le code d'ailleurs, mais avec Elon Musk et sa visibilité ultra forte. Donc, il y a une super condition de si c'est Elon, alors plus dans vos timelines pour le mettre en avant. Mais en fait, il y a plein d'autres critères là-dessus pour sur par exemple les partis. Politique aux US, républicains, démocrates, donc ils ont classé, ils ont tagué certaines personnes, certains comptes, etc., pour être sûr que en termes de visibilité, ça soit plus équivalent, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses de.
Bah, pour être sûr, on ne sait pas parce que ouais. Mais en tout cas il y a des clauses partout,
il y a des conditions.
Un article tagué en tant que ça et voilà, c'est une des conditions de l'algorithme qu'utilise l'algorithme pour décider si tu vas le voir ou pas.
C'est ça. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir? Bah, il y a pas mal enfin, ils expliquent pas mal un peu comment ça fonctionne après sur le traitement des données avec justement comment ils vont faire donc la gravation des données, construction des features et le mixage. Donc ils vont récupérer les données des tweets pour derrière pouvoir les...
Ah, j'ai écrit aggravation, mais c'est agrégation.
Agrégation, ouais, c'est bien ce qui me semblait des données, mais donc ils essayent justement de mettre en place le tagging en gros de tout ce qui reçoivent pour pouvoir justement derrière les classer et pour pouvoir mettre les infos dans vos flux. Donc là, on parle quand même surtout du flux du recommandé, puisque maintenant, désormais, on a les deux flux. On a notre flux de nos followers, je ne sais plus vouloir, et celui de... Et donc, les recommandations, on voit que ça marche comme ça. Ça marche avec un système de graphes, bien sûr, en fonction de la distance, en fonction des sujets que vous avez décidé de suivre et tout ça. avec des systèmes de boosters, donc un peu comme pour Elon, mais qui va dire bah, sur certaines choses, il y a des gros boosters. Alors bien sûr, bah, par exemple, ceux qui payent vont avoir des boosters sur leur visibilité par rapport à ceux qui payent pas. Donc c'est pour ça que si Emmanuel tweet, bah ça se verra pas beaucoup comme Arnaud. Et puis si c'est quelqu'un qui a payé le compte bidule, bah il se verra un peu plus sur les timelines recommandées des gens. Des systèmes, ouais, voilà, de clusters aussi par catégorie, personne. Qu'est-ce que j'oublie? Je sais pas, il y a tellement de choses.
Ah, les trucs intéressants, c'est les plus gros boosters, c'est les likes. Ouais. Donc, quand quelqu'un vous like, en fait, si vous êtes quelqu'un de liké de manière générale, c'est un plus gros booster. C'est un des plus gros boosters, c'est un x30. Si vous êtes retweeté bizarrement, c'est que un x20.
Ouais.
Voilà, quand quelqu'un répond, en fait, quand il y a de l'engagement, c'est-à-dire que votre tweet, il répond, quelqu'un y répond et que vous répondez à cette personne, et il y a un x75, donc c'est un comportement qui est vachement promu. Et en fait, quand on regarde l'algo, il est là pour dire, bah, on va augmenter le taux d'engagement sur la plateforme Twitter pour que les gens viennent et passent du temps dessus. En fait, c'est le proxy qu'ils utilisent pour optimiser leur, enfin, l'algorithme, on a l'impression qu'il a été construit pour optimiser ça.
Et un truc qui m'avait, enfin, au final, pas tant surpris que ça, la langue du tweet. Si c'est en anglais, bah, vous avez un boost. Parce que, bah oui, obligatoirement, l'anglais est la langue internationale,
ouais,
qui sera comprise par, ouais, une majorité de personnes sur Twitter. Donc, si vous tweetez en anglais, vous aurez un meilleur boost que si vous tweetez dans votre langue natale, native. Voilà. Donc, des, ouais, choses comme ça qui sont rigolotes. Mais bon, en tout cas, ça, c'est intéressant et ça, le code, bon, c'est en ce cas-là essentiellement pour la partie, pour cette partie justement traitement, plus après du Python pour la partie machine learning, comme classique. Mmh. Mais voilà, donc c'est assez intéressant de comprendre un peu comment ça marche. Ça casse un peu le mythe du truc obscur.
Juste pour info, le dernier commit, il est du 6 avril. Donc, ça a été plus un code dump
qu'autre chose. Ouais, c'est toi, ce que je te disais, c'est pour ça que j'aime pas trop quand les gens disent ça a été open source. Non, c'est un code dump. Enfin, ils l'ont fait une fois ou deux fois. Je sais plus, je crois que j'en ai peut-être vu un où ils l'ont mis à jour, mais sur les deux repos, mais je sais plus, mais tu vois, c'est ridicule. Enfin, tu regardes, de toute façon, les repos, ils ont un commit ou deux. Donc, enfin, ça a pas de... c'est voilà. Donc, c'est un gros code dump et,
ouais, celui-là, il a deux commits.
C'est ça, ouais, voilà, tu vois. Et, après, les gens se sont mis à créer des issues, à créer des commentaires, à créer des PR, des machins, etc. Mais voilà, enfin, je pense que derrière, ça doit servir très très peu en input. Enfin, je sais pas.
Après, je sais pas, ils ont plus d'ingénieurs, donc ça se trouve, ils ont pas commis.
C'est ça, il y a plus personne de toute façon derrière. Donc, en fait, il y a vraiment pas de commit. Voilà.
Quelqu'un disait qu'il y avait eu, plus... je sais plus si c'est ça, venait de là ou d'ailleurs, mais qu'il y a plus de filtrage et de restriction de tweets dans l'ère Elon qu'avant, en fait, paradoxalement.
Il y a eu beaucoup de comptes hein, bloqués, etc., avec des raisons obscures, voire pas de raisons du tout. Enfin, il y a eu pas mal de trucs hein, sur... je me rappelle la représentante du parti pirate européen qui s'est retrouvée avec son compte bloqué quand elle parlait de je sais plus de problématiques de sexualité dans le monde de la politique, etc. Il y en a eu plein comme ça, des comptes avec un certain nombre d'utilisateurs, enfin de followers qui ont disparu du jour au lendemain. Et bon, certains sont revenus, je sais que ça avait été restauré, mais il y en a d'autres, rien. Et puis il y a personne au bout du fil pour expliquer, justifier le truc. Donc voilà, c'est un peu bizarre quand même.
Juste un petit article sur justement là, on parle de l'impact de en fait de l'inflation en fait. Donc on a parlé des licenciements et il y a un autre, c'est ce que le New York Times a appelé la fin de l'ère du fair fold, the end of faking in Silicon Valley. Parce qu'avant en fait c'était fake it until you make it.
C'est ça.
En fait. Donc c'est des startups qui brûlaient du cash sans modèle financier super clair. Et surtout là il y a du coup comme le coût est beaucoup plus visible en fait, l'argent a un prix qui est plus élevé, bah là il y a un peu de on commence à zoomer et on voit qu'il y a eu pas mal de, enfin qu'il y a des procès qui se lancent avec des gens qui vont en prison pour des falsifications du nombre de clients par exemple, ou en fait de mensonges en fait par rapport aux actionnaires. les approches non éthiques qui étaient en fait ignorées du genre, mais en même temps c'est un golden boy, golden girl qui amène le succès de l'entreprise. En fait là c'est plus ignoré, et du coup avant les investisseurs avaient un peu peur de se mettre les créateurs de boîtes à dos s'ils faisaient tomber un de leurs copains, et maintenant avec l'argent qui vaut cher c'est un petit peu différent. Donc il y a deux citations rigolotes. Il y a celle historique de Warren Buffett qui dit en fait on voit qui était en train de nager nu quand la marée se refoule. Et du coup, il y a je sais plus le nom de la personne, mais la version moderne de ça, c'est, j'ai l'impression que dans la Silicon Valley, on était tous dans une boîte de nuit et que les lumières se sont allumées d'un coup. Et que là, c'est moins la fête, quoi.
C'est ça.
Voilà. Donc, ils vont évaluer de manière beaucoup plus poussée, en fait, leur fondateur. Et en fait, un des gars qui était cité. Alors, je sais pas s'il est hyper neutre, cet article du New York Times, mais en tout cas, un des gars qui était cité, disait, ce qui est problématique, c'est pas qu'on ait mis X millions dans la boîte, c'est qu'on ait rien vu pendant un an et demi derrière. C'est-à-dire qu'il y avait une confiance
aveugle,
pas à sens unique, enfin, qui n'existait pas alors qu'il croyait qu'il existait. Ouais. Alors après, les VC ont pas mal tordu le cou à certaines boîtes aussi, donc la confiance, en tout cas eux, ils la voulaient dans un sens, mais visiblement elle était pas là. Donc c'est un peu le retour de cet article. Donc tu me disais qu'il est potentiellement payant, en fait, ça dépend le nombre de fois où vous avez cliqué sur un lien.
Oui, faites attention, j'ai eu le couille. J'étais allé plusieurs fois sur New York Times quand j'ai voulu le lire. Oui, il est sur un paywall celui-là. Donc voilà.
Sinon, une rubrique débutant, sympathique. Arnaud, c'est quoi la différence entre une librairie et un framework?
Librairie, framework. Librairie, ça va être un bout de code qu'on va partager, qui va donc exporter des API, donc qui va simplifier au final notre développement en nous évitant de d'écrire nous-mêmes une partie de code. Donc c'est quelque chose qu'on va inclure dans notre application, notre développement, et donc on va l'utiliser tel quel via ces API, alors qu'un framework, donc en simplifiant énormément, mais le framework, lui, va nous apporter un cadre. Donc effectivement, on va parler de différents frameworks qui peuvent exister, que ce soit, je sais pas moi, je veux dire, Quarkus par exemple, c'est un framework, et donc le framework, lui, il va énormément vous guider. C'est au-delà de fournir, alors il va fournir des API, c'est nécessaire, il fournit des librairies et des API, mais en plus il va vraiment vous façonner la forme de ce que vous faites. Donc l'article, bon, est super intéressant. Alors là, ça va être compliqué de résumer, mais les pros et les cons.
Il va faire des recommandations, par exemple.
Il va faire des recommandations.
Il va vous guider vers les bonnes pratiques plutôt que de vous laisser libre de faire ce que vous voulez. Voilà.
C'est assez intéressant parce que dans l'article, justement, donc il y a les pour, les contre, les problématiques, des librairies, de la gestion, donc derrière des dépendances, donc l'empreinte des librairies et tout ce qui va avec. Sur la partie framework, c'est toujours les remises en risque de l'adhérence au framework. Hein. Si vous partez, si vous vous mettez à développer une application en Quarkus, vous n'allez pas demain la migrer en Spring Boot en 3 minutes. Voilà, il y a une adhérence beaucoup plus forte sur un framework dans vos développements. Je sais pas, il y a tellement de choses dans cet article.
Ça vaut le coup pour vous refaire un petit rafraîchissement de c'est quoi la différence, c'est quoi les raisons de l'un par rapport à l'autre. Notamment, alors c'est pas je pense que c'est une conséquence plus, mais les librairies, c'est vous qui les appelez, donc c'est impératif. Ouais. Et les frameworks ont tendance, en tout cas, sur leur concept de haut niveau, à être une version de contrôle, c'est-à-dire que c'est eux qui vont appeler votre code. Donc votre code, il va être là, il va être peut-être une sous-classe de quelque chose, il va être annoté quelque part, et le framework, en démarrant, en tout cas en Java, c'est très flagrant ce genre d'approche, va dire, tiens, c'est un bin machin truc, du coup je vais le considérer comme ça et le lancer ou un contrôleur, voilà, c'est plus intéressant, c'est un contrôleur, donc je vais exposer une entrée, un point d'entrée web avec tel nom et appeler ce bout de code, etc. Donc c'est intéressant de comprendre un peu les deux. Voilà. C'était, en fait, ils disent, je crois que c'est Guillaume qui l'avait trouvé, mais qui l'a mis en rubrique débutant. Mais pour moi, Moi, j'étais content de lire cet article, en fait. Parce qu'en fait, c'est jamais, c'est pas si limpide que ça, même pour des gens non débutants. Ah,
puis je trouve qu'il est bien écrit. Enfin, voilà. Déjà, il détaille. Alors, il est long. Hein. Il est long. Mais je trouve qu'il était,
Vous imaginez le travail qu'on fait 8 heures, hein, chaque article.
celui-là, il était bien long. Effectivement, j'ai trouvé vraiment, enfin, il est bien clair et c'est les arguments qui sont expliqués sont vraiment, enfin, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans la vie. Je trouve bien écrit. Enfin, ouais. Voilà, un bon article, honnêtement, celui-là.
Alors, nous, on a la version faite par Aurélie Vache, mais il y a une liste de conférences Java qui est sur javaconferences.org, qui est aussi backupée par un repo Git, qui est sur GitHub. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur javaconferences.org. Avec un S, hein, conferences. Oui. Ouais. Et sinon, nous, on a notre liste, donc vous pouvez aller sur lescascodeurs.com et regarder la liste qui est extraite elle-même du site web d'Aurélie et du GitHub d'Aurélie là-dessus. Donc,
jusqu'en avril 2024, on va le voir.
Java Days 1er juin. Donc, peut-être ça peut être intéressant. Voilà, Agile, Flutter Connection, Serverless Days en juin aussi. Le camping des speakers, ça doit être plein déjà, mais c'est mi-juin.
Brest Camp en juin.
Voilà, bon, allez regarder parce que vous pouvez voir les villes qui sont pas loin de chez vous. Voilà, c'est-à-dire des conférences locales qui peuvent être intéressantes pour vous. Ouais. Soit en juin, la dernière étant début juillet à Nantes, le Nantes Maker Campus.
Ouais, et après, c'est septembre.
Ou alors ça redémarre le 8 septembre avec le Jug Summer Camp à La Rochelle.
La Rochelle.
Classique. C'est ça. Classique maintenant.
Et DevOps Belgium qui est très tôt cette année, début octobre. Enfin, plus ça va, plus il est tôt.
Ouais. Belgium. Voilà. C'est ça. Ah ouais, c'était en décembre avant.
Ah oui, il y a très longtemps. C'était en décembre. Chaque année, ça attend. On va finir par le faire en plein été. Il va falloir qu'on en parle, Stéphane. Ouais. Quoique, en verse, on était. Ouais, je sais pas.
Il n'y a pas d'été là.
Ça n'a aucun intérêt d'aller là-bas l'été. Mais non, on ne veut pas.
Ouais. Ok. Bon, bah, merci de nous avoir suivis.
Merci.
Un bon épisode d'1h33, en tout cas, au moment de l'enregistrement. Et puis, content de vous avoir suivis. Et puis, idéalement, on va avoir plus d'infos sur les news, les nouvelles autour de Google I.O. et ce qui s'est dit. Donc, Guillaume et ses collègues vont nous faire une mini-interview, en fait.
Ouais. Super.
Super. Bon, allez, la bise à tous.
Ciao.
À
la prochaine. Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthemes.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.